Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venu cet après-midi avec nous et on va faire des voyages puisque c'est une conférence qui s'intitule Heureux qui comme lecteur, le lecteur, on fait un beau voyage. On a quatre intervenants sur notre table ronde. Alors tout d'abord Cécile Duquesne qui est à mes côtés, Emmanuel Chastelier, Céline Edgar, Christopher Priest et Noël Davoust qui a la gentillesse de nous assurer la traduction, l'interprétation, la traduction. Avec Cécile Duquesne, on va notamment parler des foulards rouges chez Snark. On parlera aussi du dernier des Néphilim, qui est le cycle des nécrophiles anonymes chez Voyelle. Emmanuel Chastelier est le fondateur d'Elbakin.net. Il est traducteur, il est aussi auteur du Village aux éditions de l'Instant. Donc Le Village, c'est le roman aux éditions de l'Instant. Et puis de Sébastopol aux éditions de l'Instant, qui vient tout juste de Célestopol, pardon, Dame Ned. Et voilà, première conférence, 5 minutes, une bourde. Allez, Céline Edgar, juste à côté. On parlera de 14-14, écrit avec Paul Bern chez Castelmore, mais aussi d'Adèle et les noces de la reine Margot, de Fédure, de Fortune Cookie. On parlera peut-être de voyage dans le temps, notamment. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous Christopher Priest. Alors Christopher Priest, on parlera du monde averti parce que c'est une des citations les plus célèbres, mais il faut aussi parler de la machine à explorer l'espace, notre île sombre ou bien encore la séparation. C'est une table ronde sur le voyage, alors le voyage sous toutes ses formes. On va se balader dans les univers, on parlera un petit peu de l'intérêt du voyage dans les romans et du temps du voyage, puis on parlera aussi des voyageurs. Voilà. Je voudrais commencer avec Christopher Priest, puisque avec le monde averti, première citation, première phrase, c'est « J'avais atteint l'âge de 1000 kilomètres ». Alors, est-ce que peut-être vous pouvez revenir sur cette première citation et puis ce que vous vouliez dire un petit peu dans le monde averti, monde gigantesque ?
Hello. Is this working? Yeah. I'm the beneficiary of good editing and good translating. The sentence that opens Inverted World in English is quite boring. It says, I'd reached the age of 650 miles. And that, I don't know why, but that's what it said. But when it was translated into French, my editor, who was a guy called Robert Luit at Carmen Levy, and the translator, whose name was Bruno... Can you remember? Can't remember. But they got together and they said, we're just going to change this to metric. And so it became 1,000 kilometers, which, of course, has much more resonance to it and much more poetry. And everyone sort of congratulates me on that sentence. I really don't deserve it.
Just look, I will be finding the translator. Bonjour. Eh bien, en fait, je dirais que je suis surtout béni par des bons éditeurs et de bons traducteurs, puisqu'en fait, la phrase en français est très jolie, mais qu'en anglais, elle sonne vraiment beaucoup plus ennuyeux. Parce qu'en fait, en anglais, la première ligne, c'est « J'avais atteint l'âge de 650 miles ». Donc l'excellent éditeur que j'avais à l'époque, donc Robert Luit, qui travaillait chez Calman Levy, ainsi que le traducteur, ils en ont parlé ensemble, ils se sont dit en fait on va tout passer sous le système métrique, et en fait il y a beaucoup plus de poésie et ça sonne bien mieux de cette façon là.
All my books are about travel. People go from one place to another all the time. There's a reason for this. It's a way of keeping me interested. It's not. It doesn't have a deep motive. I'm refreshed by travel. I also get very tired traveling. Yesterday I got to Epinal, having been through Schiphol Airport in Amsterdam and Glasgow Airport in Scotland. I was really tired, but nevertheless, it's uplifting to come somewhere fresh. I love coming to Epinal. It's. I always think of it as a kind of. A break from reality. And to me, when I'm writing, a change of location has that effect on the book. It livens it up for me as the writer, and then I hope also for the reader.
Uh, tous mes livres parlent de voyage d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui vont d'un endroit à un autre et parmi les raisons, c'est pour maintenir mon intérêt dans l'écriture. Il n'y a pas forcément de motif plus profond que ça. Moi, dans la vie, le voyage, ça me renouvelle, ça me rafraîchit. Par exemple, là, pour venir à Épinal, je suis passé par l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, par l'aéroport de Glasgow. Bon, c'était très fatigant, mais en même temps, c'est très énergisant. En même temps, j'aime beaucoup venir à Épinal. C'est un peu comme avoir un répit hors de la réalité. Et je pense que le motif du voyage dans l'écriture, je l'espère, en tout cas pour moi, ça a cet effet-là dans l'écriture, le même effet de renouvellement et de réénergisation. J'espère que donc ça a aussi. Je pense que ça a cet effet-là sur un livre, en tout cas en tant qu'auteur. J'espère que ça a le même effet pour le lecteur.
On commence à rentrer. Juste peut-être revenir sur comment est venue cette idée d'associer en fait l'âge au nombre de kilomètres.
Oh dear. I wrote this book when I was a kid. I actually wrote it. It's nearly 50 years ago. 45 years ago, I think. You will have to excuse me if I don't remember it very well. It's a problem. I can answer a basic question with a basic answer, I'm afraid, which was I thought any society which rules its life by movement would also measure time by distance. So that they would say we've gone this far in this period, and that's what we know and what we've achieved. I've done a similar book. I was just talking to Lionel about this. My new book, L'Inclinaison, which is English, The Gradual, is about another kind of travel through time. It's a time travel story where one is shifted through time by movement. It's quite similar to Mondain Verti. I don't think it's quite as good a read. It's a bit slower. It's something which, when you walk across a room, you know, we go from here to there. That is measured in distance. But it's also measured in time. So many seconds have elapsed. When you travel to Paris, the time you take is part of your life that's gone forever. And nothing has happened. Another example is when you fly. If you fly from, say, France to New York, you're in the air for 7 hours, and of those 7 hours, you will remember getting on and sitting down. You might remember having a meal. You might remember watching a film, all that. But by the time you get off the plane, 7 hours have elapsed, but you can only remember about 20 minutes. And in fact, that is your experience. 20 minutes is the collapsed time.
Oula, alors j'ai écrit ce bouquin, j'étais gamin. Non, et plus sérieusement, malheureusement, j'ai écrit ce livre il y a 45 ans, je pense. Donc, j'espère que vous voudrez bien m'excuser si je m'en rappelle pas si bien que ça. Et je crains de ne pouvoir répondre qu'avec une réponse un peu basique. Mais j'avais envie donc d'écrire une société où, comme cette société était gouvernée par le mouvement, eh bien, le temps était également mesuré en termes de distance. C'est-à-dire qu'on est allé jusque-là et dans cette distance-là, voici ce qu'on a fait, voici comment on a vécu. Dans mon nouveau livre, L'Inclinaison, il parle aussi d'un peu ce genre de rapport du voyage avec le temps, et c'est une différente histoire de voyage à travers le temps. C'est effectivement une histoire de voyage dans le temps, puisque ça parle de la manière dont le temps altère la vie à travers le mouvement, ce qui est un petit peu semblable au monde inverti en fait. Je pense pas que L'Inclinaison soit une lecture aussi trépidante que Monde Inverti, c'est quand même un peu plus contemplatif. J'avais cette idée là que le temps, évidemment, se mesure en termes de distance, mais se mesure également en termes de temps. Par exemple, vous traversez une pièce, vous avez dit, bon ben voilà, j'ai fait tant de pas, mais pendant ce voyage, il y a aussi du temps qui s'est écoulé, des secondes qui se sont échappées. De la même façon que quand vous allez par exemple à Paris, ça prend un certain temps. C'est un temps que vous ne récupérez jamais. Si vous prenez un avion qui va de France à New York, vous restez en l'air pendant environ 7 heures. Ce qui s'est passé, c'est que vous allez peut-être vous être appelé, vous êtes monté à bord, vous êtes assis, vous êtes peut-être mangé quelque chose, vous avez regardé un film. Et au moment où vous allez vous descendre de l'avion, ces 7 heures vont être comprimées en peut-être 20 minutes. C'est cette expérience-là dont j'avais envie de parler.
Cécile, dans Les Foulards Rouges, ton héroïne traverse ces étendues désertiques pour remplir ses différents contrats. Je voulais qu'on reste sur le temps du voyage, en fait, en tant qu'écrivain, et c'est une question que je vous poserai un petit peu à tous. Ce temps du voyage-là, à quoi il sert globalement quand les héros se déplacent d'un point A à un point B?
Pour des raisons scénaristiques, tout bêtement, en fait, pendant que un personnage voyage, d'autres ne voyagent pas forcément. Et agissent dans l'ombre du récit, en fait, vraiment à un endroit où le lecteur n'a pas droit de regard au moment où on l'écrit. Et donc, si l'on suit le personnage qui voyage, il y a un effet de surprise. Et donc, dans ce cas-là, le voyage est un élément scénaristique, en fait, qui sert à suspendre quelque part la narration. Par ailleurs, on peut aussi choisir de se baser sur le personnage qui ne voyage pas. Dans ce cas-là, on perd l'effet de surprise. Mais au niveau de la réaction de celui qui voyage, l'effet, en fait, de retardement induit par la distance et donc par le temps, en fait, fonctionne quand même. Moi, dans Les Foulards Rouges, je m'en sers comme cela, puisque à la fois en termes de distance, justement, et de temps, comprimé, plus ou moins, je joue justement sur ces glissements en termes de connaissances, de temps de trajet, etc. La connaissance est vraiment suspendue pendant le trajet. On arrive quelque part, et là, en fait, les nouvelles nous parviennent. Et dans Les Foulards Rouges, c'est d'autant plus important qu'il n'y a pas de technologie qui permette de transmettre aucune communication autrement que par bien quelqu'un d'autre qui voyage justement et qui amène la nouvelle. Et dans Les Foulards Rouges, c'est un élément capital en termes de scénario, puisque sans ça, au niveau du suspense, ce serait un petit peu moins, comme dans tous les westerns en fait, ce serait un petit peu moins intéressant.
Silène, c'est la même chose pour toi dans tes romans?
Ça marche?
Ouais.
Moi, ce qui m'intéresse dans le voyage, c'est pas tant. Alors, j'ai pas autant réfléchi sur cet aspect scénaristique que sur le fait que moi, j'aime voyager et j'écris en voyageant. Mon premier roman qui raconte un voyage, le voyage d'une jeune fille qui part de Polynésie vers la Corse, c'est un texte que j'ai conçu, imaginé en marchant. En marchant dans les Alpes, en voyageant jusqu'à Tahiti, sur un bateau, en allant d'île en île. Enfin, c'est vraiment. Et de fait, je pense que de manière beaucoup moins réfléchie que toi, et juste parce que c'est mon expérience, je fais voyager les personnages pour qu'ils se confrontent à de la nouveauté, pour qu'ils soient dérangés dans leurs habitudes, pour que à un moment ou un autre ils soient obligés de grandir, de bouger, avec une trajectoire de personnage qui du coup correspond à une trajectoire réelle de voyage. Et dans le voyage dans le temps, ça va être la même chose. C'est le voyage dans le temps qui va permettre, qui va bouger, qui va de toute façon physiquement empêcher que le personnage reste en place et revienne à sa norme.
Donc il y a une notion de confrontation un petit peu à l'arrivée d'un ailleurs. C'était un peu le cas sur Le Village quand le héros arrive, Emmanuel.
Oui, mais en fait, moi, la notion du voyage en tant que telle m'intéresse moins que celle de la destination. Je sais que souvent on dit que l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Mais moi, en fait, c'est plus la destination par rapport au but que ça représente pour le moteur, que ça peut représenter pour les personnages. Mais comme s'enfuir d'un lieu précis ou justement atteindre une cité dans laquelle on espère pouvoir réaliser ses rêves. Enfin, des choses comme ça. C'est vraiment plus le but lui-même qu'on cherche à atteindre plutôt que le trajet, en somme. Qui m'intéresse. En revanche, c'est vrai que moi, au-delà de l'histoire que je peux écrire, moi, j'aime beaucoup réfléchir en marchant ou en justement en me déplaçant, en tout cas, parce que j'ai l'impression d'arriver à un niveau de concentration beaucoup plus élevé que en fait en réfléchissant devant mon ordinateur où les tentations sont souvent très grandes. Donc c'est un mélange des deux, autant dans les histoires que je peux écrire, le voyage lui-même C'est pas, je me concentre pas dessus en tout cas. Après, au fil de l'écriture, ça peut, il peut prendre évidemment de l'importance, mais dans ma méthode, avec de très gros guillemets, on va dire, j'aime bien tenir compte du voyage pour, on va dire, charpenter le récit.
Après, sur la confrontation, si tes héros sont pas forcément confrontés, enfin ils le sont, mais s'il y a pas cette notion de voyage, par contre il y a quand même la notion de voyage du lecteur, parce que dans ton dernier roman, par exemple, tu proposes une cité radicalement différente, t'as envie de les confronter à autre chose, hein.
Oui, bah c'est vrai que dans Célestopol, mon idée principale, c'était aussi, faut savoir que j'aime beaucoup l'Uchronie en tant que lecteur. J'en lis pas forcément autant que je voudrais, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, justement parce que pour moi, c'est un voyage vers quelque chose qui n'existe pas, puisque forcément, c'est pas basé sur notre réalité. Et c'est vrai que autant le lecteur que moi, j'ai envie de nous emmener vers quelque chose finalement d'inaccessible autrement qu'à travers le prisme du livre lui-même, quoi. C'est comme si les mots étaient une porte vers un nouveau monde. Et dans ce sens-là, oui, effectivement, le voyage compte, enfin prend une nouvelle dimension, en tout cas, clairement.
C'est la même chose pour vous trois ? Qui veut commencer ? Silène, peut-être ?
Moi, je me rends compte que concrètement, mes voyageurs ont une destination. Dans Moana, il faut qu'ils rejoignent une personne en Corse. Dans Fortune Cookies, la mère cherche son enfant au sud des Pyrénées. Adrien, dans 14-14, cherche l'autre Adrien. Adèle cherche Samuel. Ils cherchent quelqu'un, ils cherchent et ils font le chemin pour trouver quelqu'un. Et en fait, quand ils y arrivent, le chemin est déjà fait. Concrètement et dans leur tête aussi. Et finalement, même s'il n'y a pas d'issue, même si le personnage n'est plus là, pas accessible, ou c'est pas grave en soi, parce que le chemin à faire est fait pour le personnage. Et de fait, sa destination nous mène pendant tout le roman, nous, moi en tant qu'auteur et puis le lecteur, et c'est suffisant en soi. Et si à la fin on se dit c'est bon, je peux refermer le livre, moi je suis contente, quoi. Je veux qu'il y ait une vraie fin et la fin du voyage sonne cette vraie fin.
D'accord, donc on a trois idées. On a la confrontation du héros par rapport à la destination, à l'univers, pour des raisons scénaristiques ou pour là. Il y a la confrontation du lecteur à un autre univers et puis il y a le temps du voyage qui transforme le héros. Cécile ?
J'ai oublié d'ajouter un petit détail la dernière fois, mais ce que vous avez dit m'y a fait penser, et c'est assez marrant dans le sens où moi je me construis à l'inverse de vous par rapport à ces termes de voyage. Dans les foulards rouges et de manière générale dans ma vie, en fait, je me rends compte que je me tourne plus vers la pulsion d'errance, en fait, vers ce qui donne envie de voyager, en fait. Et dans les foulards rouges, c'est pas juste une évasion, en fait, c'est vraiment une envie de voir ailleurs comment c'est fait. Il pourrait très bien ne pas quitter la planète, en fait, mais il décide d'aller sur Terre, donc voilà. Mais c'est vraiment. Le terme de confrontation, je l'aime bien, mais on est un peu trop dans le conflit, justement. Là, c'est mes études qui parlent, mais dans l'exilience, en fait. Devenir autre et s'altérer soi-même au contact de l'autre. Pas forcément l'autre qui est loin, justement. Le voyage, il peut faire 10 mètres. Mais c'est la pulsion d'exil, la pulsion d'errance. Et dans les foulards rouges, les deux personnages principaux, Lara et Reno, ont vraiment ça en eux. Les autres personnages, pas forcément. Il y en a souvent qui arrivent quelque part et qui y restent et qui s'installent. Eux bougent toujours. Donc scénaristiquement aussi c'est important parce que ça traverse la série et ça lui donne un peu son côté indéfini, mais je veux pas spoiler la fin de la saison 3.
Quelle est la pulsion de voyage chez vous ? Vous voulez peut-être ajouter quelque chose d'abord, Christopher Priest ?
Yesterday I travelled from Scotland to Epinal. It was a completely ordinary journey of no interest to anybody, except that all travel involves mysterious things. There are all sorts of rules. And I always feel that airports have been rebuilt since I was last there because they're always different. Nothing ever seems quite the same and you get instructions to go to different places. And yesterday I came through Amsterdam and this involved a walk of approximately 3 kilometers from where I landed to where I took off, and there were no directions at all. There was just a gate number, but not where the gate was. you finally work it out. But in the middle, they had passport control. And so there were about 12,000 people trying to... And it was absolutely insane. Anyway, you get there. And another thing about travel is that you have these annoying things. You sort of feel that you're not given the best seat or that other people have done something to get the best seat or something like this. You've become obsessed with small things. And when I was writing my last novel, which is called Lincolnaison. This involves a lot of travel around a group of islands, and the problem with it is that if you cross from one island to the other, you go forward or backwards in time, and there's no way of knowing how that's going to affect you, except at the customs post, where they have all sorts of bizarre ways of measuring it, and they don't tell you what they are, but they give you little tokens and little pieces of paper, and some you have to keep and some you have to discard, and this whole book is... This poor guy is travelling the whole time under these insane rules which change all the time. For me, that's funny. It's a sort of revenge on the whole travel industry because for making life so difficult.
Quand j'ai voyagé pour venir à Épinal, que je suis parti d'Écosse pour venir à Épinal, en fait, c'était un voyage totalement ordinaire qui n'aurait probablement aucun intérêt pour personne. Mais il y a quand même un truc, c'est que finalement, tous les voyages contiennent un élément de mystère. Vous avez des tas de règles étranges, bizarres, pas très bien expliquées. Par exemple, depuis la dernière fois que je suis venu ici, j'ai l'impression que les aéroports ont été complètement reconstruits parce que je reconnais plus rien et on m'envoie à des endroits différents et c'est très étrange. Par exemple, hier, j'étais à l'aéroport d'Amsterdam et je pense qu'il a fallu que je marche environ 3 km entre l'endroit où j'avais atterri et l'endroit où je devais décoller. Il n'y avait aucune indication, il y avait juste le numéro de la porte, mais il n'y avait aucun endroit où... aucune instruction en tant que l'endroit où était la porte. Et au beau milieu de ce périple, vous avez un contrôle de passeport et approximativement 12 000 personnes qui attendent. Enfin, c'est complètement insensé. Bref, il y a toujours des éléments agaçants avec le voyage. Par exemple, vous avez l'impression que vous n'avez pas forcément le meilleur siège ou que d'autres ont dû truander pour avoir le meilleur siège. On devient obsédé avec tout un tas de petites choses. Pour le rapport au livre, donc dans mon dernier roman L'Inclinaison, donc ça met en scène principalement un groupe de gens qui voyagent d'île en île dans un archipel. Mais le truc, c'est que quand vous passez d'une île à l'autre, il y a un effet sur le temps qui accélère ou vous êtes propulsé en avant dans le temps ou en arrière. Et il n'y a aucun moyen de savoir l'effet que ça aura, à part que les gens du coin ont tout un tas d'étranges coutumes très bizarres. Ils ont des totems, des documents dont certains il faut les garder, d'autres il faut les balancer. Et donc, ces personnages voyagent avec tout ce tas de règles complètement dingues. Pour moi, c'est un élément qui est plutôt drôle. Et peut-être que c'était une manière de prendre une revanche sur toute l'industrie du voyage.
And at the end of the book, he discovers there's an insurance policy he could have bought that would have protected him.
Et à la fin du bouquin, il découvre qu'il y a une police d'assurance qu'il aurait pu souscrire et qui l'aurait protégé.
Deux petites choses. Alors d'abord, par rapport à tout ce qui a été dit, Christopher, puisque vous disiez que tous vos romans étaient des romans de voyage, sur la transformation du héros, sur la confrontation à l'autre, est-ce que c'est aussi ce qui vous motive dans l'écriture, dans ces voyages-là?
Yeah, they're about growth. I've been listening, and I agree with these colleagues who. I mean, it's not a difficult thing. I mean, travel does imply learning, discovery. Involve bad things like losing your luggage and being late and all that sort of thing. But in general, people travel because it improves their lives. And in a novel, I've always found that movement away from the start is partly the plot, the story, but it's partly also the character development. But it's also the location, so that you feel, the reader should feel that something has been achieved more than just the story, that a growth has taken place.
Oui, j'écoutais tout ce qui s'est dit avant et je suis tout à fait d'accord. Je pense que la notion de voyage participe de la croissance de manière générale. Voyager au quotidien, c'est pas forcément quelque chose de bien difficile. Bon, il peut toujours arriver des trucs désagréables. Vous perdez vos bagages, vous arrivez en retard. Mais ça n'implique pas forcément dans le fait de voyager, la nécessité de découvrir quelque chose ou nécessairement d'apprendre quelque chose. Mais dans un roman, c'est différent. Je pense que ce mouvement, cet éloignement qui commence dès le début, évidemment participe du développement de l'histoire, mais participe également du développement des personnages et du développement du décor et de ce qu'on rencontre. Ce qui fait que, à la fin, je pense que le lecteur peut se dire qu'il y a quelque chose qui a été accompli qui dépasse la simple histoire.
Est-ce que c'est le même ressort pour le voyage dans le temps, toi qui as fait plusieurs romans avec le voyage dans le temps ?
Oui, complètement. D'autant que ce qui est intéressant dans le voyage dans le temps, en tout cas avec les personnages qu'on a créés avec Paul sur les Adriens ou avec Adèle, c'est que il n'y a pas de destination réelle, puisqu'il y a un moment où, de toute façon, physiquement, ils doivent rester dans leur époque ou ils doivent y revenir d'une manière ou d'une autre. C'est un moment très fort pour moi dans 14-14. C'est quand Adrien de 2014... Alors, j'ai pas de mal à dire des compliments sur la partie Café Paul. il prend son vélo, ce môme, et il va physiquement dans le bled où est supposé habiter l'autre Adrien. Et donc, c'est quelque chose de fort, je trouve. Ce môme, il a 13 ans, il part de l'an, il a des kilomètres et des kilomètres avec ce vélo. C'est très long, c'est dangereux. Et il arrive et ça n'existe plus, en fait, puisque son copain, il vit dans une autre époque, dans un autre temps. Et donc, c'est un voyage qui font ensemble et qui est pas possible concrètement, physiquement, et pourtant qui est bien réel. Et je trouve que c'est quelque chose, enfin moi c'est quelque chose qui m'intéresse, de poser cette question de ce qu'on accomplit dans le voyage qui est au-delà du déplacement concret physique de soi-même. Et alors ça me touche par rapport à ce que disait Christopher au début sur le temps qu'on peut perdre dans le voyage, cette heure qui se réduise en 20 minutes. En fait, moi mes voyages sont très longs parce que j'écris ou que je lis, et qu'en fait, ces heures, hier, j'ai passé 7 heures dans le train, mais j'ai lu 2 livres, et en fait, j'ai voyagé des années. Voilà. Et il y a de ça, je trouve, dans le voyage dans le temps, la possibilité de dépasser physiquement ses limites pour se déplacer.
Vous voulez réagir peut-être, Nounout ? Ouais, vas-y, Manu.
Bah, par rapport au, je dirais qu'il y a aussi, au-delà du voyage dans le temps, je dirais peut-être l'écoulement simplement du temps. Parce que c'est quelque chose, pas trop en dire là non plus, mais qui touche directement en fait Célestopol, donc mon nouveau livre, dans le sens où en fait je trouve qu'aussi parfois c'est l'écoulement du temps permet de voir entre la personne qui, on va dire, reste en place, et puis finalement les gens qui autour eux continuent de voyager, de bouger, et c'est finalement on reste prisonnier comme d'une gang, qui fait que on se retrouve piégé dans le flot quand d'autres peuvent continuer à évoluer dedans. Et alors après, pourquoi parfois on se met soi-même des barrières, etc. Je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant au niveau de la gestion, on va dire, du temps aux yeux des personnages et de leur parcours. Voilà.
Quel est le plaisir d'inventer des histoires de voyage dans le temps?
À l'origine, quand on a bossé sur l'idée de 14-14 et comment on allait jouer sur le paradoxe temporel, moi je voulais faire un truc beaucoup plus compliqué que ça, et Paul m'a freiné, à raison je pense, mais moi je pensais à Stéphane Vull et à l'orphelin de Perdide, où le voyage en fait est tellement long que voilà, la même personne n'est plus la même et en même temps la même, enfin... bon, il m'a dit personne comprendra rien. En plus, on écrit pour des ados quand même, donc il y a un moment où il faut qu'on soit clair dans notre propos. Mais on garde un peu de ça avec un personnage qui naît à l'époque du premier Adrien et qui est encore là à l'époque du deuxième, et donc qui va faire ce lien, qui me semble vraiment intéressant, comme on va garder un souvenir d'un voyage concret, physique, réel.
Christopher, même chose, quel est le plaisir de jouer avec le temps et faire du voyage dans le temps ?
You said anything about pleasure.
Mais qui a parlé de plaisir ?
We're all dead before we're born. We don't know we're dead. We don't even know we're going to be born. But everyone alive has the experience of death. And everyone alive has the prospect of death. So life is something lived as an intermission in death. And that intrigues me as a concept, as a driving idea. And I think time travel, the need and pleasure to write time travel comes from that feeling of being able to kind of delve into what happened before you were born and what might happen after it. I mean, there is a third kind where you go back and forward, you know, today or tomorrow, or shorter times. But I think on the whole, it's to do with an inquiry about death. It quite intrigues me, that.
Nous sommes tous morts avant notre naissance. Nous ne savons pas que nous sommes morts, nous ne savons pas que nous allons naître. Mais tout le monde, tous les gens qui sont en vie, ont eu cette expérience de la mort et l'ont comme perspective. Donc en fait, la vie, c'est jamais qu'un entracte entre deux grandes périodes de mort, et ça m'intrigue beaucoup. C'est une idée qui, pour moi, est assez motrice. Et je pense que le voyage dans le temps permet un peu de s'échapper de ça, donne un peu la sensation de s'aventurer dans ce qui a pu se passer avant notre naissance ou après notre fin. Bon, évidemment, il y a un troisième type de voyage dans le temps où on revient sur des périodes beaucoup plus courtes d'un jour ou deux, mais voilà. De façon générale, je pense que c'est peut-être une manière d'étudier, de s'aventurer, d'interroger la mort, et de façon globale, c'est une idée qui m'intrigue.
Alors, on a parlé pas mal de voyages. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un peu une agence touristique de voyage. Hein. Vous êtes des auteurs d'imaginaire, donc ils nous emmènent régulièrement voir d'autres univers. J'aimerais qu'on se fasse simplement un petit point pour aller sur chacun de vos univers. Vous nous les décriviez, hein, comment moi j'y vais. Et surtout, pourquoi vous les avez construits comme ça ? Est-ce que c'est pour frapper le lecteur ? Est-ce que c'est juste pour servir l'histoire ? Comment vous avez fait ? Cécile, pour les foulards rouges, on parle d'étendue désertique.
D'un endroit dont on a envie de partir loin, très loin. Si vous voulez un ticket, un aller simple pour Bagne, dans les foulards rouges, il suffit de commettre un crime. Ouais. Et peu importe la gravité, plus ou moins, on vous donne le choix entre l'esclavage à vie sur Terre ou un ticket pour Bagne. Donc, la plupart du temps, ils choisissent Bagne, sauf que Bagne, c'est une planète qui a été plus ou moins irradiée par la magie suite à une guerre, etc. Donc, on est dans la science fantasy, hein, voilà. Et en fait, elle n'est pas survivable. Donc ça signifie que c'est une planète qui est très très belle, qui est magnifique, mais qui est mortelle. Qui est toxique littéralement, quand vous avez un orage, il faut se cacher. Voilà, c'est vraiment... Mais après, voilà, c'est une planète. D'ailleurs, le personnage principal, Lara, elle en est folle amoureuse. Elle dit, mais c'est magnifique, ces grandes étendues rouges, etc. Alors évidemment, là, il y a un petit peu de moi qui parle, parce que je viens du sud. Et c'est vraiment des paysages qui me parle et qui, j'espère, parle au lecteur aussi, parce qu'une grande étendue désertique, on a envie de la traverser. En même temps, on ne sait pas si c'est survivable, déjà sur Terre, mais après, dans les conditions sur Bagne, c'est pas un voyage agréable, quoi. C'est, voilà, si vous gagnez un ticket pour Bagne, prenez de la crème solaire et plein d'eau.
et comment tu l'as construit concrètement, Bagne ?
Alors, Bagne, en fait, je l'ai volontairement construit en vase clos. Dans le sens où il n'y a que la Fédération, qui est un territoire d'environ 400 km², donc c'est tout petit, qui a été exploré par ces personnages. Donc il y a des frontières naturelles qui sont... alors vous avez à l'ouest, vous avez les montagnes, un massif montagneux. Après, vous avez une mer asséchée un peu vers le nord. Vers le sud, c'est juste une grande étendue désertique. Ils ne savent pas où ça mène. Ils ne sont juste pas allés trop loin parce qu'ils ont juste des chevaux pour se déplacer et quelques engins qui n'ont pas une énergie éternelle. Et donc au milieu de tout ça, enfin plus ou moins au milieu, il y a la Hacienda, donc avec qui est plus ou moins le QG du gouvernement local. Donc en termes d'exploration, ils sont pas allés loin. Et volontairement, je laisse au lecteur le rôle de se faire une place dans le roman et d'imaginer ce qu'il peut y avoir ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés ou pas ? Est-ce que c'est juste du désert partout ? Est-ce qu'il y a un endroit sur Bagne, parce que c'est une planète qui est irradiée par certains côtés, mais d'autres peut-être pas. Je lui laisse le choix d'imaginer qu'il peut y avoir un côté où Bagne, ça peut être sympathique à vivre, qui n'est pas si toxique que ça. Voilà. Donc c'est vraiment. Et la Terre aussi est une terra incognita. On ne sait pas du tout à quoi elle ressemble, mis à part pour l'Australie. Donc c'est vraiment enfin vraiment, il y a une pulsion d'errance, mais généralement les moyens à la disposition des personnages font que ils ne peuvent pas aller très loin. Voilà. Mais volontairement. C'est pas juste parce que j'avais la flemme.
Emmanuel, sur Sélestopol.
Oui, je suis très mauvais agent touristique, on va dire, mais je peux pas trop compter sur Trivago, donc il va falloir que je me débrouille. Oui, alors Sélestopol, en fait, tout est parti, en fait, je pense, de un amour d'enfance pour Jules Verne, dans le sens où on va dire que c'est autour, dans cette chronologie-là, autour de 1850, l'Empire russe a découvert donc une mystérieuse matière sur la Lune qui a permis de l'essor notamment de toute une civilisation essentiellement basée sur les automates, et donc avec une cité lunaire sous un gigantesque dôme de verre qui est censé être un peu la perle de l'Empire, quoi, pour montrer la supériorité de la Russie par rapport aux autres puissances terrestres. Et donc c'est une ville que l'on rejoint avec par obus à la base, comme dans comme chez Jules Verne dans Voyage de la Terre à la Lune. Et pour moi, l'idée, c'était vraiment le fait que ça soit une cité protéiforme, qui est évidemment inspirée vaguement de Saint-Pétersbourg au niveau des canaux, qui sont envahis justement par cette matière, qui est une espèce de brume mordorée, pour changer un peu simplement des canaux remplis d'eau. Et oui, voilà, c'est ce qui vient, c'est que la cité, pour moi, est protéiforme. Ça peut être un asile pour certains, un refuge, une prison pour d'autres. Et puis avec les germes d'une certaine, on va dire, révolution entre les ouvriers qui ont été sacrifiés pour construire la cité et qu'on ne voit pas, puisque eux ont tendance à vivre sous terre par rapport à tout ce que représente la ville, on va dire, avec ses monuments magnifiques, etc. Et puis c'est une ville qui est dominée par la figure du duc Nikolai, qui est un homme assez étrange et qui étrangement ne vieillit pas. On ne sait pas exactement pourquoi. Et voilà, donc c'est la ville elle-même est le cadre de toutes les nouvelles du recueil, avec quelques exceptions. On peut aller faire un petit tour du côté de la face cachée de la Lune, ce genre de choses. Mais essentiellement, c'est vrai que tout se passe dans cette cité. Et avec finalement qui domine, c'est le cas de le dire, la Terre, et qui se croit en tout cas largement supérieure aux puissances terrestres qui existent encore, dans un monde justement uchronique où il y a eu pas mal de variantes, puisque la France n'existe plus, ce genre de choses. C'est la nouvelle France maintenant, c'est dû à mon exil canadien sûrement. Et voilà, donc pour moi c'est vraiment une cité qui est à la fois essentiellement technologique, mais avec un soupçon de magie issu notamment tout ce qui est le folklore russe ou slave de façon générale, mais par petites touches. Et tout simplement, moi, j'avais envie d'y aller dans cette cité, donc j'ai écrit les nouvelles qui me permettaient de l'explorer, tout simplement.
Silène.
Moi, en vous écoutant, je me rends compte que j'ai rien inventé du tout, à part Pondichéry, que j'ai jamais vu. Je suis allée dans tous les lieux que je choisis, et je raconte des histoires qui se passent très concrètement dans des endroits précis. C'est pour ça que Moana commence en Polynésie. J'avais envie de parler de ce voyage que j'ai fait là-bas, à Tahiti. Et que depuis quelques années, mes histoires se passent plutôt en France, parce que je bouge moins. Forcément, j'ai des petites drôlesses qui m'ont empêché d'aller très loin. Et donc, il y a bon espoir qu'on reparte très loin dans quelques années, que mes histoires s'y passent aussi. Et concrètement, pourquoi ça m'intéresse ? Parce que je pense que si on n'a pas tous visité ces lieux-là, pour autant, on est tous attachés à des lieux particuliers. Par exemple, quand un personnage arrive dans un lieu paradis, vous savez, ces endroits où on a l'impression que le temps s'écoule tout doucement parce qu'on y est bien, parce qu'on y est heureux. Chacun, ça doit évoquer quelque chose chez vous, peut-être la maison de mamie, peut-être un truc chez des copains. On peut situer clairement un lieu, dire c'est à tel endroit, c'est à, je sais pas moi, Saint-Genis, Angoulême, sans que ça gêne le lecteur, tant que l'ambiance du lieu, elle, lui évoque quelque chose de précis à lui. Mais moi, par contre, en tant qu'auteur, que le lieu soit très précis, que dans Fortune Cookies, Blanche, elle traverse, elle fait Angoulême, elle fait Toulouse, elle va dans les Pyrénées, elle marche sur des chemins que j'ai vus moi-même, ça me permet de concrètement donner du corps à mon personnage. Donc je crois, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, que le personnage ait du corps en ayant un lieu précis qui existe, que j'ai vu. J'ai fait des voyages des fois pour écrire. Et en même temps, tout mon travail, c'est de faire en sorte que ça évoque au lecteur qui ne connaît pas ce lieu-là, un lieu qui lui est propre, qui lui est cher, parce qu'on a ces expériences communes en fait.
Même question pour Christopher, pour l'inclinaison.
I was going to answer. I'd rather respond to what has been said. When I was 8 years old, my teacher at school suddenly produced this huge drawing in colour, and it was full of details. It had very simple things like a house and a car and a train and a dog and a ladder and all these things. And it was a depiction of a landscape full of things. And she then pointed to a house and told us a story about the house. I can't remember what it was, but it was enough. The following week, she got it out again, and this time she pointed to somewhere else, and, you know, a dog, and told us the story about the dog. And then the following week, again, she found something else to talk about from that picture. Now, the interesting thing for me was, I can't remember the picture, but I can remember the stories. I mean, the details are boring. They're for eight-year-olds. But they had two qualities. One was they were narratives, and they weren't just static places. They had places where things had happened. And the second thing was that every time she got that picture out, it hadn't changed. But we knew more about it. It got deeper. So that she'd tell us the story about the dog, but on the other side of the picture was the little house that we'd heard about 2 weeks before. And we knew something about that world in which they both existed. So gradually, a kind of a world of the imagination emerged. Now, that for me was a very influential thing. But there were 30 kids in my class. I think I'm the only writer that came out of it. But so I suppose the state of being a writer is something which is not governed by external influences, but if the external influences are there, you can respond to them with your own work.
Je voudrais d'abord répondre à ce que Silène vient de dire, avec une histoire. Quand j'avais 8 ans, le professeur qu'on avait à l'école a sorti un immense dessin en couleur qui était plein de détails. Il y avait plein de petites choses dedans. Il y avait une maison, une voiture, un train, un chien, une échelle, enfin tout un tas de petites choses. C'était un paysage, mais avec énormément de détails. Et le professeur a commencé à désigner une maison et a commencé à nous raconter une histoire sur la maison. Alors, je m'en rappelle pas suffisamment pour vous dire ce que c'était, mais peu importe, elle a rangé le dessin, et puis une semaine plus tard, elle l'a ressorti, et là, elle a désigné le chien, elle nous a raconté une histoire à propos du chien. En fait, toutes les semaines, elle nous ressortait le dessin, elle nous racontait une histoire sur un élément différent. Ce qui est intéressant pour moi avec cette histoire, c'est que je peux pas me rappeler de l'image. Je me rappelle absolument pas de l'image, mais je me rappelle des histoires. Alors, elles n'étaient pas non plus fantastiques. Hein. C'était des histoires pour des enfants de 8 ans, donc elles étaient un peu simples. Mais ce qui est intéressant là-dedans, et pour toute la classe, c'est que ces lieux, ces petits détails, n'étaient plus des endroits statiques. C'était des endroits qui avaient une narration. Et chaque fois qu'elle ressortait le dessin n'avait pas changé. Mais, par contre, il paraissait plus profond, parce qu'à chaque fois, on en avait une compréhension plus profonde. Par exemple, on voyait la maison et on disait, on sait quelque chose à propos de cette maison. Et en fait, quelque part, ça a dépeint et ça a construit un monde imaginaire qui a émergé. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément influencé dans le fait de devenir auteur. Il y avait, je pense, on était quelque chose comme 14 gamins dans cette classe. A priori, je suis le seul à être devenu écrivain. Donc, ça contribue à dire que devenir écrivain, c'est peut-être pas quelque chose qui est dicté par des efférences externes, mais par peut-être quelque chose qui est déjà là et qui est préexistant. Cela dit, il faut les influences externes pour que ce penchant se développe et s'exprime.
En tant qu'écrivain, là, on va parler de vous. Est-ce que le voyage est important pour apporter des idées, pour déclencher ou, par exemple, débrouiller des points de scénario un peu compliqués? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte dans le processus d'écriture?
Pour moi, complètement. J'ai commencé à écrire parce que je suis partie de l'autre côté de la Terre, que je me suis rendu compte que notre culture était particulière, et même si elle domine en Europe, en allant en Polynésie, en rencontrant une culture complètement différente, je me suis décentrée et là, j'ai pu commencer à écrire. Parce que voilà, j'étais ethnocentrée, même si j'en avais conscience, cette expérience de voyage a changé, a ouvert la porte. Après, moi, j'en ai besoin même dans la lecture. Donc, par exemple, pour comprendre Stendhal que j'avais au programme de mon concours de lettres, je suis allée à Rome avec Promenade dans Rome de Stendhal. J'ai lu Stendhal en baladant comme lui. Et j'ai compris beaucoup mieux cet auteur que je ne l'aurais jamais compris en lisant 15 fois Le Rouge et le Noir. Et du coup, moi, je fais ce même chemin dans l'écriture. Quand j'ai écrit là dernièrement un livre sur la fille de Madame de Sévigné, je suis allée au Rocher pour voir où vivait cette femme, comment c'était. Je me suis promenée et quand je raconte dans le texte ces promenades-là, oui, c'est parce que j'ai éprouvé ce déplacement-là moi-même. Donc, c'est essentiel.
Emmanuel ? Toi, tu disais que tu avais besoin de marcher pour te concentrer des idées.
Oui, c'est vrai. Bon, après, je fais pas des treks de 3 semaines dans les Andes. Mais non, mais en fait, je vois, il y a aussi une dimension peut-être voyage par procuration parfois. J'y pense parce que moi, j'ai toujours été fasciné par l'exploration spatiale. Moi, j'ai grandi dans les années 80. On peut dire que c'était déjà un peu tard pour ce qui était exploration lunaire, tout ça, c'était passé de mode. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et qui me fascine toujours. Bon, j'avais pas du tout on va dire, c'était pas du tout ma voie scolaire. Mais je pense que ça m'a aussi ouvert des horizons et donné des idées, en fait, de me plonger dans des choses qui m'entraînaient, aussi loin que peuvent nous entraîner le voyage dans les étoiles. Et puis de façon beaucoup plus terre à terre, c'est vrai que depuis que je vis à Québec, en fait, même si là je parlais de Sébastopol, la ville ressemble beaucoup plus à une cité, on va dire, russe. Mais c'est vrai que malgré tout, pour quelqu'un qui connaît Québec, je pense qu'il reconnaîtra certaines choses, notamment dans les lumières, tout ça, dans la topographie de la ville assez accidenté, on va dire. Il y a vraiment quelque chose, en fait, qui fait que effectivement le voyage, je pense, façonne forcément l'imaginaire pour donner vie à finalement quelque chose de nouveau, ce qui est évidemment ce qu'on cherche tous, je pense, quand on écrit une histoire.
Cécile, c'est la même chose pour toi? Le temps du voyage est important dans ton boulot d'écrivain?
Oui et non. Oui, en termes d'inspiration, de décentrement, comme tu disais, Silène. Aussi en termes de concentration, comme tu disais, Emmanuel. Mais après, quand je voyage, comment dire? Il y a des voyages que je fais en tant qu'écrivain, où je vais chercher quelque chose, une matière, un matériau, quelque chose qui va ressortir dans les romans. En ce moment, je travaille sur un roman japoniste, donc je suis en plein dans mes photos de mes voyages au Japon, j'essaye de prévoir quelque chose pour plus tard. Donc je suis vraiment dans une sorte de voyage, non pas documentaire, parce que ce serait grossièrement résumé, mais un voyage qui, quelque part, est aussi part entière du processus d'écriture. Et par ailleurs, il y a les voyages que je fais en tant que simple touriste, en fait, tout simplement, qui influencent sûrement mon écriture en termes de rencontres, en termes de temps de voyage, en termes de pause aussi entre deux romans, parce que souvent les voyages se font entre deux projets. Mais c'est pas conscient. C'est vraiment quand je voyage, j'essaye, comme je disais tout à l'heure, je suis dans la pulsion d'errance, j'aime être perdue, en fait. J'aime me retrouver, comme il y a un mois, en plein milieu de l'Irlande du Nord, le GPS qui fonctionne plus, le téléphone qui capte pas, la voiture qui, 100 km plus tôt, nous a fait un coup un peu foireux, et se dire, qu'est-ce qui va m'arriver, mon Dieu? Et ce sentiment d'être perdue et de ne pas savoir ce qui va se passer, ça se retrouve aussi dans mes romans, mais c'est pas conscient. C'est vraiment, ça fait partie de qui je suis en tant que voyageuse et qui je suis en tant qu'écrivain. Ce sont deux personnalités, deux personnes différentes. Ça fait un petit peu schizophrène dit comme ça, ou bipolaire, mais c'est la réalité. Et je n'arrive pas, soit je fais un voyage vraiment en tant qu'écrivain, et dans ces cas-là, j'y vais avec des objectifs très précis. Je profite évidemment de mon voyage en tant que personne, mais il y a un motif caché. soit vraiment c'est un voyage où je lâche tout, je laisse l'écrivain à la maison et je pars.
Christopher, quel voyageur êtes-vous ?
Oh, I think I've made it clear. I'm a reluctant traveller. They say travel broadens the mind, but in my view, it makes the bum hurt.
Je suis plutôt un voyageur réticent. On dit que voyager élargit les horizons, mais à mon avis, ça fait surtout mal aux fesses.
One of the writers that most influences me is the English writer Graham Greene, and in one of his books, he talks very interestingly about the material a writer uses in terms of research and knowing things and travelling. And what he says is that the most important thing a writer can do is forget. That details are unimportant. Details are only incidental. That they can provide an anecdote. They can provide a sentence of background. But they're not in themselves the material that you write with. What you write with is your unconscious and your conscious mind working together. And he says that the work of writers is to forget, and that what a writer forgets is what he calls the compost of the imagination. I don't know if you can translate that. Yeah. And I've always found that fascinating, that I find when I'm writing, I don't know what I'm going to write until I write it. But so often something comes up from below, which just is exactly the thing I need when I'm working. And it's not a memory, it's a kind of a memory of a memory.
L'auteur qui m'a le probablement le plus influencé, c'est l'auteur anglais Graham Greene. Et il dit dans un de ses livres que le matériel intellectuel que l'écrivain utilise à travers ses voyages, en fait, la chose la plus importante qu'il peut faire avec, et la chose la plus importante qu'un auteur peut faire, c'est oublier, en fait. C'est-à-dire que les détails n'ont pas d'importance. Tout ce qui est incident, tout ce qui... les petits incidents, tout ce qui peut éventuellement fournir une anecdote, une petite phrase, un détail, pourquoi pas, mais ça n'est pas ça le matériau avec lequel l'écrivain travaille. Le matériau avec lequel l'écrivain travaille, c'est son conscient et son inconscient qui travaillent ensemble. Et quand il dit que la chose la plus importante qu'un auteur peut faire, c'est oublier, c'est parce que ce qu'il oublie va devenir ce qu'il appelle le compost de l'imagination. Et c'est quelque chose qui me fascine énormément, parce que, notamment quand je vais me mettre à écrire, je sais jamais ce que je vais écrire, mais il se produit quelque chose, c'est quelque chose qui vient du dessous et que je ne sais pas avant de l'écrire, mais c'est quelque chose qui vient du dessous et qui est toujours exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est pas un souvenir, c'est plutôt quelque part le souvenir d'un souvenir.
Et on arrive au bout de cette table ronde, il nous reste quelques minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos auteurs ou un souvenir de voyage avec eux ou avec leur livre? Bon, bah, je vous propose d'aller voyager jusqu'aux séances de dédicaces, puisqu'ils sont tous en séance de dédicaces à la Bulle du Livre. Une autre conférence va arriver. Juste, tu peux nous lire ce qu'il y a marqué sur ton t-shirt, Lionel ?
Attention, les rayons provenant de ce t-shirt peuvent atteindre la vitesse de la lumière.
Voilà, donc le t-shirt de Lionel peut atteindre la vitesse de la lumière. Un joli voyage. Merci à vous et merci à eux.